Politique, épisode sur l'actualité du 21 septembre 2025. Je suis en train de remettre mes infrastructures sur pied. Je suis quasiment à la fin de ça. Donc, la plupart des choses sont revenues correctement. Les sites devraient être corrects. La diffusion devrait reprendre son air d'aller. Je vais remettre les publications. Ainsi, tout devrait revenir à la normale incessamment. N'ayant de moins en moins d'énergie à dépenser sur le redressement des infrastructures et la refonte de certaines composantes. Tant qu'à avoir ouvert les choses, ben, j'en ai profité pour mettre de l'ordre dans certains composants. Shameless plug, 12 au 17 octobre, Objective by the Sea version 8, 14 au 15 octobre, Attack-Con version 6, 14 et 15 octobre, Forum Incyber Canada à Montréal, code rabais de 30% dans les show notes. FairCon 2025, le 4 et 5 novembre prochain. 10 au 12 novembre, le rendez-vous IA à Québec. 17 au 20 novembre, l'European Cyber Week à Rennes en France. Et le 25 et 26 février, le retour de Secure 2026, volet jeunesse. Volet pour les adultes et volet pour tout le monde. Donc, plusieurs annonces vont suivre dans les prochains jours et semaines à ce niveau-là. Cette semaine, j'ai divisé mes nouvelles en des sections comme les choses. Je suis en train de prendre mon air d'aller, fait que tranquillement, ça va prendre du sens. Première section cette semaine-ci, c'est l'intelligence artificielle, très présente à l'actualité de la dernière semaine. Un retour sur le fait que ChatGPT peut faire fuir des informations, notamment avec le Google Calendar, les intégrations, les différents éléments. On le voit énormément, ça réapparaître, s'étendre et se répéter chez les différents fournisseurs d'intelligence artificielle, d'agentique, etc. Essentiellement, c'est des éléments d'intégration non matures, au sens TI, pour avoir malheureusement ou heureusement une très longue histoire de ce côté-là, d'avoir vu des implantations qui ne mettent pas en place les mesures minimales qu'on pourrait s'attendre dans les circonstances, donc les éléments qui viennent bloquer et empêcher ce genre de choses-là. L'essentiel dans ce cas-ci, c'est que les moteurs LLM, pour la plupart, ont énormément de difficultés entre distinguer ce qui lui est demandé de faire de façon légitime et ce qui ne l'est pas. Donc, il va y avoir, j'imagine, du travail qu'on va se faire de ce côté-là. Mais en même temps, soyez prudents et assurez-vous que vous ne branchez pas tout et n'importe quoi. Ce qui amène à la deuxième nouvelle qui est essentiellement la suite, si on veut, de ce genre de choses-là. L'intégration du MCP dans ChatGPT, justement, qui est un module de liaison vers des modules extérieurs pour lui permettre d'interagir avec son environnement. Donc, c'est un problème. Le MCP n'est pas un protocole qui est encore robuste au sens cybersécurité. Il y a encore beaucoup d'éléments inconnus là-dedans. C'est un protocole qui n'a même pas un an encore. Donc, laissez le temps de maturer avant de vous lancer ou au minima l'utiliser dans un contexte qui vous est défini, dans lequel vous maîtrisez, puis qu'il n'y a pas de conséquences malheureuses qui pourraient s'en sortir. ChatGPT a été utilisé pour contourner le CAPTCHA de toutes les natures, même si à même le ChatGPT, on y a intégré des éléments pour éviter l'usage dans de tels contextes, s'il arrive malgré tout qu'on est capable de contourner, parce que ça aussi, c'est une autre caractéristique du LLM. Il est relativement facile à contourner parce qu'il n'a pas de compréhension du contexte. Ils ne sont pas encore rendus là en termes de développement technologique. On fait des artefacts qui viennent bloquer un certain nombre de choses, mais avec une capacité relativement limitée de matérialisation, de blocage, de mise en contexte pour le moment. Donc, ce côté-là de la technologie n'est pas tout à fait suffisante encore pour bloquer ça. Donc, on va voir des moyens utilisés par les attaquants pour contourner les différents mécanismes de sécurité qu'on met en place à l'aide des différents LLM qui sont disponibles sur le marché. À ça, il y a aussi SpamGPT, qui est une trousse qui a été développée pour rassembler des outils pour augmenter, envoyer des pourriels, envoyer des hameçonnages, et ainsi de suite, justement pour piéger les gens, pour faciliter. Donc, ces outils-là sont rendus largement disponibles dans le volet criminel de l'Internet. Donc, de le voir apparaître, puis on va en avoir d'autres, ça en est un, parce que c'est une trousse, puis c'est aussi une compréhension ou une façon de voir que cette, euh, Ces avancées technologiques-là vont aussi être du côté des méchants et ceux-ci vont intégrer les différents outils qu'on met à leur disposition, soit les versions publiques qu'on a tous accès ou des versions privées qui sont roulées sur des moteurs indépendants pour arriver à des éléments comme ça. Donc, on n'est pas à l'abri. Ça va aller en croissance. C'est un champ de recherche, mais en même temps, dans la mesure où nos mécanismes de sécurité sont en place correctement, ces moyens-là devraient ne pas causer des problèmes supplémentaires, mais ça démontre à quel point il y a une industrialisation encore plus rapide du crime organisé dans les internets, dans le dark web et dans tous ces univers plus sombres. Donc, il est d'autant plus important de se prémunir et de bien configurer nos systèmes. excusez. Deux nouvelles un peu plus, comme disons, dramatique, si on veut, sur l'état des choses avec l'intelligence artificielle. La première de ça, c'est le fait que l'économie de la surveillance et l'intelligence artificielle sont des facteurs très prédominants dans l'affaiblissement de l'état démocratique dans lequel on vit, de par la facilité d'obtention de l'information et de la manipulation de celle-ci par l'intelligence artificielle, nous arrive dans un contexte où ça déstabilise les principes dans lesquels on avait toujours cru immuables. Donc, ça doit être d'une certaine réflexion. L'article est très intéressant. Je vous invite à aller le lire justement parce que ça amène un regard assez profond qui, dans une petite capsule comme ça, n'est pas suffisamment longue pour partager ce qu'il y en est, mais quand même d'aller voir puis voir les dangers qui sont associés à ces éléments-là et peut-être amener une réflexion différente. L'autre nouvelle, c'est Vibe Coding, Cleanup as a Service. Il y a de plus en plus maintenant des services qui sont offerts pour les gens qui ont utilisé du Vibe Coding en n'ayant pas une très grande connaissance en développement. Et donc, de ramasser peut-être potentiellement les gâchis qui sont faits avec ça, parce que les gens qui ne connaissent pas ça ne peuvent pas voir tous les problèmes qui émanent de l'usage du vibe coding. Et donc, se placent dans des positions peut-être disons, précaires, surtout pour des systèmes de production. Je l'ai déjà mentionné, ne faites pas ça. C'est possible. Apprenez à programmer. C'est pas parce que vous êtes capable de faire ça avec faire du vibe coding que c'est une bonne idée si vous n'avez pas les connaissances de base. Puis mes amis développeurs sont tièdes quant à l'usage du vibe coding de façon générale dans leur travail. Donc, de vraiment, vraiment regarder et d'aller étudier, ne pas contourner. Ce serait comme de vouloir être médecin sans vouloir étudier pour être médecin. Chose que je déconseille fortement et ça l'amène. Puis d'ailleurs, dans les nouvelles, il y a toujours un moment donné ou un autre des nouvelles un peu plus dramatiques où des gens se sont blessé gravement en se prétendant médecin ou en connaissant la santé et en ne l'étant pas et en prenant des décisions qui peuvent causer des préjudices à leur vie. Fait que soyez très prudents, ne faites pas ça, c'est très mal. J'aimerais pas que des gens se blessent parce qu'ils ont eu des instructions de l'AI qui auraient pensé être validées au niveau de la médecine et qui n'ont pas pu vérifier. Bref. L'autre volet, c'est l'offensif. Beaucoup de failles, de discussions de cette nature-là cette semaine, c'est assez important. Au-delà des CVE conventionnels qu'on retrouve, parce qu'il y en a à tous les jours, des CVE. Mais là, il y a différents éléments de nouvelles qui sont intéressants à aborder, notamment le cas de Jaguar Land Rover, qui est réellement affecté par l'attaque qu'ils ont subie. Ils ont arrêté, ils ne sont pas capables de se remettre. Et il y a une mention dans un article sur le fait qu'ils devraient recevoir une aide financière du gouvernement pour les remettre sur pied. Chose à laquelle j'ai un énorme malaise, parce que c'est quand même une entreprise privée. Même si elle est quand même grosse, fournit beaucoup d'emplois et ainsi de suite. Ils sont supposés avoir des assurances cyber, ils sont supposés mettre des éléments en place pour limiter les problèmes qui sont associés à ce genre de choses-là. Puis j'ai un autre article un peu plus loin qui revient sur ce chose-là, mais de façon plus vaste. Donc, c'est de savoir un certain malaise de ça, parce que ça devient des décisions business s'ils n'apprennent pas de leurs erreurs business. Mais on va se retrouver dans un contexte où les entreprises vont continuer à subir des attaques sans faire plus parce que l'État va toujours être là pour ramasser les gâchis après et prendre l'argent de nos impôts pour ramasser les gâchis des gens qui se sont enrichis par les économies qui ont été faites. Ben, bref, Je suis en désaccord face à ce genre de choses-là, mais faut quand même avoir de l'empathie pour les travailleurs qui sont touchés par ça, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et de voir comment on est capable d'arriver à une situation où on pénalise pas les travailleurs, mais qu'on pénalise les gestionnaires et les décideurs qui ont peut-être pas mis les bons investissements, et notamment pourri une assurance cyber pour couvrir les risques auxquels ils étaient exposés. Selon l'information de l'article, en tout cas, bref, voyons voir, je ne sais pas s'ils en ont vraiment, mais l'article mentionne qu'ils n'en ont pas. Dans la même veine, ben, une chose, ça va avec le problème de SonicWall. Quelqu'un a laissé traîner sa liste de mots de passe dans un fichier texte sur son desktop. Dans un contexte où dans lequel on est, c'est mal. Surtout si on est une personne qui est responsable des systèmes informatiques. Si vous avez ça sur votre desktop, s'il vous plaît, utilisez une voûte de mots de passe officielle ou utilisez un cahier noir pour ne stocker vos mots de passe à la main. C'est déjà beaucoup moins grave les mots de passe à la main que sur un fichier .txt sur le desktop, parce que s'ils volent votre fichier sur le desktop, c'est foutu. Si c'est un admin système, c'est encore pire. L'ensemble de l'organisation va être entraînée dans ça. Donc, c'est un peu triste. Mais en 2025, pour une personne travaillant en informatique qui fait ce genre d'erreur-là, ben, c'est un peu un problème. Puis le MFA ne règle pas le problème parce qu'il avait mis ses codes de recouvrement MFA dans le même fichier texte sur son desktop. Donc, bref, faites pas ça, s'il vous plaît. Puis dites aux gens autour de vous de ne pas faire ça. C'est mal, c'est très mal, ça l'amène des organisations à tomber à cause de ça. Google confirme qu'il y a eu un compte frauduleux pour son système de notification avec les forces de l'ordre. C'est pas très clair comment que c'est arrivé, mais par contre, ils ont dit qu'ils l'ont détecté rapidement et désactivé aussi rapidement et qu'aucune requête n'aurait été faite. Ça fait partie des groupes criminels, notamment sur Telegram, qui sont associés à ça, mais je ne sais pas l'ensemble de la démarche qui est en arrière. C'était l'article pas très clair. Ça allait dans tous les sens. J'ai pas saisi les choses spécifiques pour cet élément-là, mais bref. Ils ont dévié sur d'autres choses. Un verre qui s'auto-réplique dans les packages NPM qui vient s'injecter, des choses comme ça. Ça fait probablement ensuite, puis j'ai pas été capable de savoir, ça faisait suite à la nouvelle que j'avais mentionnée la semaine dernière sur l'attaquant qui n'avait retiré que 200$ des attaques. C'est peut-être ça, c'est peut-être d'autres choses, mais encore là, des registres extérieurs sont souvent à problème. Nettoyer, il y a un des articles que j'ai mis dans les chaînes qui explique comment nettoyer si vous avez été infecté par un package qui vous a que vous utilisez puis que par hasard vous avez mis à jour pendant qu'il était qui était infecté. Donc, de faire ce genre de choses-là. Le DHS avait un site exposé, en tout cas, avait exposé énormément d'informations dans un contexte américain où les agences, notamment le DHS, collectent énormément d'informations sur les citoyens et les non-citoyens. Ce genre de vulnérabilité-là d'informations qui est exposée est problématique parce que c'est un énorme trésor d'informations qui sont disponibles. L'article n'est pas clair, parce que j'ai pas réussi à retracer ou à futer, mais bref, c'est un problème. C'est un problème aussi, puis ça c'est le pendant pour les compagnies privées. Conservez pas ce que vous n'avez pas de besoin, parce que si vous en perdez le contrôle, ben, ça peut avoir des conséquences, comme c'est ici, ben, ces informations ont été exposées à des agents non autorisés, mais c'est pas super clair, parce que je pense que j'ai pas réussi à avoir accès à l'article, parce qu'il était en arrière d'un paywall. Mais bref, il reste que c'est un problème. Apple a réglé un 0D qui date de iPhone 8, qui est un module de rendu d'image qui est attaqué par des attaquants, utilisé par des attaquants très sophistiqués. C'est souvent le cas quand on est des cibles par ailleurs pour ce genre d'attaque-là, parce qu'il est très ciblé. Le mode lockdown du téléphone bloque ce genre de fonctionnement-là, donc limite la portée. Vous avez été infecté, le mode lockdown ne vous protège pas. Mais bref, c'est vieux problème, puis la patch est remontée jusqu'au iPhone 8. En l'occurrence, beaucoup de personnes reçoivent des courriels qui disent que le courriel n'a pas été délivré. J'ai ce problème-là depuis déjà plusieurs mois. Il y a des chaînes, il y a des conversations sur Reddit à ce sujet-là. Donc, il y a beaucoup de gens qui subissent ça. C'est-à-dire que tu as un retour de courriel qui, somme toute, est officiel parce qu'il n'a pas été capable d'être délivré parce que c'est bloqué. Mais il reste que le message original est un spam, donc il nous amène à faire ça. Fait donc, si vous investiguez, faites juste effacer si vous voyez que c'est vraiment dans cette ligne-là. SonicWall, ben, je l'ai mentionné, mais il y a aussi l'effet que certains éléments des backups sur leur service ont été exposés. Fait qu'allez vérifier si vos backups n'ont pas été affectés par le problème qui est mentionné. Nouvelle stratégie des attaquants d'envoyer des SMS en ayant des tours fictives qu'ils mettent en place pour envoyer. Donc, nos téléphones se branchent sur cette tour fictive-là et pendant qu'elles se branchent sur cette tour fictive-là, ils nous spamment en fou pour leurs différents éléments. En théorie, c'est assez visible, que même si les fournisseurs ne sont pas censés être capables de bloquer ce type de fonctionnement-là parce qu'ils ne sont pas dans le processus. En théorie, autant aux États-Unis qu'au Canada, on a des agences de surveillance et les compagnies cellulaires vont voir, parce que ça fait beaucoup de bruit sur les tours cellulaires avoisinantes, ce genre de comportement-là, et j'ose espérer qu'ils vont appréhender les personnes qui sont associées à ce genre de choses-là. Encore un article dans un paywall, je n'ai pas vu l'ensemble de ce qu'il y en est, mais c'est la compréhension du résumé qui était diffusé. Donc, j'espère que les forces de l'ordre vont appliquer leur capacité d'intervention dans ce cas-ci, parce que c'est des nuisances fort désagréables pour beaucoup de gens, puis pour mes parents qui sont un peu moins familiers avec ces éléments-là et les parents de tout le monde, peuvent tomber plus facilement dans ces pièges-là, donc de protéger les personnes un petit peu plus vulnérables par rapport à ces éléments-là. Faire une critique dans IntraID qui était très intéressante sur le fait qu'on était capable d'usurper un jeton assez puissant dans l'Azure, dans IntraID, et les vérifications associées à celui-ci n'étaient pas exécutées. Donc, on était capable d'utiliser un jeton pour se donner des accès dans n'importe quel tenant. Heureusement, c'est corrigé depuis. Le papier est très intéressant de voir ça, puis où Microsoft a un peu raté dans ses mises de sécurité en arrière et a répondu heureusement très rapidement au problème. Il n'est pas connu si ça avait été utilisé par des personnes, mais minimalement, le chercheur a diffusé ça très, très rapidement. Et ça l'amène au fait aussi qu'il y avait des problèmes de journalisation parce que c'est l'ancien Graph API. La journalisation était faible, le nouveau est meilleur. Donc, c'est très important d'avoir la traçabilité et d'être capable de voir ce genre de choses-là. Faire depuis 10 ans sur le Mac avec Spotlight. Spotlight, c'est l'outil de recherche sur le Mac qui nous permet de voir à peu près tout. Là, c'est une lambda oui et non parce que c'est un comportement normal qui est ça, mais qui est mal contrôlé, qui permet de voir l'ensemble de l'information. Donc, on serait capable justement d'aller voir à peu près tout et n'importe quoi parce que les plugins dans Spotlight ne sont pas contrôlés. Donc, assurez-vous que vous n'avez pas de plugins. Ça, allez voir dans l'article qui mentionne les endroits, vérifiez si ce n'est pas des plugins hostiles qui pourraient être là et faire fuiter de l'information de votre ordinateur. Attaque contre les ADR qui est franchement très et les antivirus qui est franchement très intéressante. Dans le fond, ça vient essentiellement bloquer le fonctionnement temporairement des ADR et antivirus en simulant un crash. Et le module de Microsoft de Windows qui analyse ça vient geler le process. Et une fois que le process est gelé, ils viennent tuer le process d'analyse du crash du logiciel, ce qui fait que le process de l'antivirus ou de l'ADH est gelé de façon éternelle jusqu'au prochain redémarrage de la machine. Fait que c'est une stratégie qui est franchement très imaginative, très intéressante. Puis dans le fond, les outils sont déjà sur la machine, donc d'être vigilant. Si vous voyez l'exécution de ces éléments-là, notamment par des moyens alternatifs, surveillez si il n'y a pas trop de crash. We are fault qui apparaît sur vos systèmes. Donc, c'est un signe qui est potentiellement une attaque qui désactive le DR, l'antivirus. Cyberattaque sur les aéroports européens. En soi, c'est pas. Bon, en tout cas, au moment où j'enregistre, j'ai pas beaucoup plus d'informations que ça. Les systèmes ont arrêté. Il n'y a personne qui a revendiqué. Par ailleurs, ça vient mettre en lumière le fait que beaucoup d'aéroports délèguent leurs services pour question d'économie de coûts. Ce fournisseur-là vient tomber, ce qui est le cas dans ce cas-ci, pour l'enregistrement, pour les vols. Ça a bien bloqué l'ensemble des choses. Donc, beaucoup d'aéroports européens utilisent le même système. Donc, quand le système est tombé, bien, tout le monde est tombé en même temps. C'est un peu la fragilité du système qu'on a et l'objectif de rationaliser les coûts. Bien, on se crée des points d'échec ou des points de bris qui sont beaucoup plus petits, donc faciles à mettre à terre et d'arriver à ce genre de choses-là. Probablement qu'il va y avoir une revendication de ça. Puis, bref, si ça tombe dans mes filets, je l'attraperai et j'en parlerai la semaine prochaine. Sinon, dans la nouvelle offensive, du côté de WatchGuard, il y a une vulnérabilité très importante qui permet à un RCE sur les systèmes, dans des conditions particulières, par ailleurs, ce n'est pas tous les systèmes qui sont vulnérables. Donc, allez vérifier si votre système est vulnérable et s'il est, le corriger le plus rapidement possible puisque c'est votre guérite vers l'extérieur et celle-ci peut être attaquée assez facilement pour pivoter vers l'intérieur de votre organisation en souhaitant que vous ayez quand même des bonnes configs pour éviter que des choses rentrent pour rien dans votre organisation. Volet plus défensif, côté GitHub a ajouté une façon de créer des versions immuables, c'est-à-dire essentiellement une fois que vous avez publié une nouvelle version de votre logiciel de votre code dans GitHub, ça vient la rendre en lecture seulement, donc il vient bloquer de façon permanente le changement comme ça. Ça évite des attaques supply chain, ça évite pas quelque chose, ça évite les mêmes erreurs aussi par ailleurs. Fait que vous n'êtes pas capable d'effacer le contenu, vous n'êtes pas capable de rien changer, les attaquants non plus. Donc, ça vient garantir que le code qui est là est demeuré fiable et qu'il n'y a pas eu infection qui relate ou change les différents éléments qui sont associés. C'est probablement une question de temps, mais que les attaquants trouvent une façon d'utiliser ça à leur avantage. Mais pour le moment, c'est une stratégie très efficace pour assurer des versions qui sont de confiance quand que vous déployez ça. J'ai retrouvé un article sur l'importance de la surveillance en temps réel dans un SOC ou l'usage de threat intelligence et ainsi de suite. Ça c'est un article semi-publicitaire, mais c'est intéressant puisque ça ouvre le regard sur le fait qu'on a besoin d'une quantité d'informations. Cette semaine dernière, je parlais de MIPS, qui est une plateforme pour l'échange de ça. C'est d'avoir des partenaires locaux dans le même secteur régional que vous pour justement échanger ces informations-là parce que les attaquants vont souvent cibler les mêmes genres de choses. Ou au minimum, si vous avez des tendances locales ou régionales ou par secteur, vous allez les voir arriver comme ça, d'être capable de partager ça entre vous autres. Donc, arriver le plus rapidement possible. Si vous avez des MSSP, c'est encore mieux parce qu'eux-mêmes voient plusieurs sources d'attaque en même temps. Donc, vont être capables d'agir et d'être efficaces sur vous, donc d'avoir des informations en temps réel associé à ce genre de choses-là, puis j'en ai parlé dans le podcast à plusieurs reprises, ces éléments-là, qu'est-ce que ça sert, comment les utiliser, comment les déployer, donc ça devient très intéressant. Ou attachez-vous avec une firme de recherche, j'en ai plusieurs qui participent au podcast, offrent des produits qui sont tout à fait excellents sur ça, donc allez les voir et voir ce qu'on peut faire et comment augmenter votre vivacité d'action, votre agilité quand que ça arrive. Tombé sur un article de d'un téléphone à burner. Je trouve ça intéressant. Je l'ai décidé de retenir l'article puisque cette semaine, mon numéro, là, moi, j'ai pas de téléphone burner, j'ai un numéro burner. C'est ce que j'utilise quand que je fais des recherches spécifiques. Puis justement, je tombe sur des affaires puis qui ont l'air un peu louches. Fait que j'utilise mon numéro de téléphone à brûler plutôt que mon téléphone standard pour faire ce genre de vérification-là. Et c'est important. Le fait d'avoir un burner va plus loin. Le fait d'avoir un burner, c'est qu'on n'est plus capable d'identifier l'identité, donc l'endroit où on se trouve, parce que les tours cellulaires trouvent toujours où on est. Si on est capable d'attacher un compte avec un numéro de téléphone, bien sûr, un numéro cellulaire. Donc, l'utiliser dans ce sens-là permet justement de limiter les problèmes ou si vous avez des endroits plus hostiles, justement, de l'effacer au retour. Donc, c'est un article très intéressant qui vous donne des conseils pertinents de ce côté-là, qui est quand même d'une publication réputée. Puis, si vous avez ce genre de besoin-là, si vous faites de la recherche, vous avez des choses, bref, évitez de vous exposer. Apple a corrigé beaucoup de failles de sécurité par la diffusion de correctifs dans sa dernière version et a diffusé également la nouvelle version de son OS, de toutes les choses 26, qui amène aussi en même temps un certain visuel que je trouve pas particulièrement agréable, mais au minimum, toutes les correctifs de sécurité sont disponibles à travers celui-ci, donc c'est très important de le déployer dans un délai quand même raisonnable pour bénéficier des avantages de sécurité. Microsoft Cloudflare ont mis en échec Raccoon O365 qui était une stratégie de vol de compte au 305, donc d'atteinte à ce genre de choses-là. Très intéressant de voir qu'il y a des efforts concertés. C'est sûr que c'est dirigé vers leur plateforme, donc ils ont mis à terre les sites web 380-ish et ainsi de suite, donc de réduire à ça, mais le problème, c'est que c'est comme des hydres. Coupe une tête, il y en a trois qui repoussent. Donc, dès lors, ça devient très difficile de choses, mais au moins, ça vient calmer le jeu puis de voir comment, à terme, on pourrait collectivement réussir à régler ce problème-là. Section plus vie privée, PRP, c'est ça. Les compagnies aériennes américaines ont vendu 5 milliards d'informations sur des billets d'avion. 5 milliards, c'est pas énorme sur le nombre de vols qu'il y a aux États-Unis par ailleurs, mais ces grandes compagnies aériennes-là vendent ce genre de choses-là, une espèce de broker central et tout ça. Puis ça revient un peu rebouclé avec ce que je mentionnais plus tôt, notamment avec le DHS, notamment avec tout le fait de la démocratie puis l'économie de surveillance nous amène dans un contexte où toutes ces informations-là où cette surabondance d'informations-là cause des problèmes, fait de l'invasion de la vie privée, puis il y a des conséquences, des dommages collatéraux qu'on ne mesure pas encore complètement. Notamment, l'article parle d'affaiblissement de la démocratie. Ça en est un, mais il n'y a pas que ça comme problème. Il y a des vies, des gens qui sont quand même affectés. Donc, il y a quand même une réflexion assez profonde à avoir sur les brokers, tous les data brokers qui existent. Normalement, là, on est dans l'aviation, mais il y en a dans tous les domaines, donc peut-être d'avoir une réflexion beaucoup plus profonde, savoir ce qu'on fait avec tout ça et comment on agit. En même temps, quand on prend l'avion, on est contraint de subir ça, de cette vente-là. Donc, en même temps, comment on peut s'organiser pour que ça fasse moins mal. Au moins, au Canada, au Québec, on a des lois sur la PRP qui sont un peu plus efficaces, en Europe également d'ailleurs. C'est peut-être ça qui va réussir à limiter le vol américain. Quoique aux États-Unis, avec le président actuel, n'est pas favorable à ce genre de choses-là, quoique les lois étatiques en ont. Donc, c'est un rapport de force à voir comment ça va se dérouler. L'autre élément en PRP qui est intéressant, c'est Google vient d'annoncer la disponibilité du chiffrement côté client dans Google Sheet. Il l'avait déjà annoncé dans ses courriels. Je ne sais pas si l'on a annoncé dans le doc, je n'ai pas vu passer depuis, mais je sais qu'il y en a dans d'autres sections, dans les comptes payants par ailleurs, puis des comptes qui sont, si je regarde sûrement bien, donc quand même pas les comptes de base payants, ce sont quand même des comptes payants, en tout cas assez élevés. Je ne sais pas si ça va descendre, j'ai pas fouillé l'information elle-même, mais j'avais vu la même nouvelle il y a quand même quelques années au niveau des courriels. C'est très intéressant parce que c'est du client-side. Étant du client-side, ça veut dire que la clé de chiffrement m'appartient, n'est pas vue de Google. Donc, Google ne voit pas le contenu, personne ne voit le contenu. Ça a donc l'avantage de répondre un peu aux préoccupations de consommation d'un cloud qui n'est pas totalement souverain ou qui est par compagnie américaine ou peu importe comment on veut aborder la chose. Donc, dès lors, on a des moyens d'utiliser des grands hyperscalers qui ont des capacités à nous vendre des services pas chers, mais en même temps qui nous permettent de protéger adéquatement nos informations du regard du hyperscaler ou d'appétit d'agence de surveillance. On parlait des Américains qui aiment beaucoup. Ben, ça en fait partie, mais il n'y a pas que les Américains. En Europe, il y a beaucoup de volonté. Puis j'en avais parlé la semaine dernière de certains entités gouvernementales. On le voit au niveau du Parlement européen, on le voit au niveau du Parlement britannique, cet appétit d'aller fouiller dans les données. Donc, de se prémunir de ça, surtout quand on travaille avec des données confidentielles qui doivent être protégées, donc de s'assurer. Puis, ce que c'est l'avantage, c'est que si l'information fuite, bien, l'information qui est fuitée est chiffrée, donc on n'a pas à se préoccuper davantage de la situation que ça. On est protégé doublement à ce moment-là pour éviter une situation qui pourrait être un peu plus désastreuse si les données fuitaient non chiffrées, ce qu'on voit souvent. Puis ça, je lève mon chapeau à Google parce que c'est ceux qui mettent le plus d'efforts sur ce type de chiffrement-là, si on les met en opposition à Microsoft, qui est dans une autre réflexion, qui n'est pas exactement la même. Donc, ce n'est pas les mêmes joueurs au niveau de la bureautique. Donc, ceci peut peut-être expliquer cela. Mais j'aime beaucoup cette approche-là que Google met de l'avant, même si ça ne satisfait pas ceux qui sont dans la souveraineté absolue, mais il est quand même d'arriver à un niveau qui est intéressant à ce moment-là. Fait divers, parce que j'ai deux nouvelles un peu plus que je pouvais moins qualifier dans les nouvelles cette semaine. Un article très intéressant de personne de très grande influence en cyber. Son article, c'est essentiellement critique de ce qui se passe avec Jaguar, Land Rover, notamment, sur le fait de la fuite des données, tout ce que c'est. Et lui, son angle, c'est la consultation, de outsourcer les fonctions critiques TI et sécurité à l'extérieur. Dans le cas de Jaguar Land Rover, c'est à Tata qu'ils ont été sous-traités. Et ça fait partie potentiellement du problème que ces sous-traitants-là, les moins chers possibles, parce que là, c'est pas, le but, c'est pas Tata qui est pointé du doigt en l'occurrence, mais le fait que ce soit le plus bas soumissionnaire conforme, donc de maximiser les profits au détriment de la cybersécurité en sous-traitant ça à l'extérieur, ben, nous amène dans des situations plus précaires au niveau de la cybersécurité. On le voit, ça, c'est un cas qu'on voit, mais on en voit beaucoup d'autres à l'heure actuelle. On voit qu'aux États-Unis, ils squeezent beaucoup les budgets, les entreprises squeezent beaucoup, les actionnaires squeezent beaucoup les compagnies pour extraire le maximum de profits possible. Mais il arrive toujours qu'on coupe des choses. La cybersécurité en fait partie de ces choses qui sont coupées. Donc, on voit cet élément-là. Donc, il ne reste que le législateur place des règles, un peu comme on a vu avec Sarbanes Oxley, par exemple, qui a changé le fardeau de responsabilité. Puis, il l'a déplacé sur les hauts gestionnaires, donc en faisant de la prison et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, d'arriver dans des structures qui empêchent des décisions, même si... Je suis un consultant, fait que je fais ma vie sur aider des clients à progresser et aller plus loin, mais je ne suis pas un grand joueur. Donc, moi, mon pain, mon beurre, ce n'est pas de sous-traiter des grands pans de mur de TI ou SI, mais vraiment de faire du conseil. Fait que je suis pas tout affecté par ce genre de choses-là, mais en même temps, il y a un apport très intéressant de la consultation, de l'optimisation et tout ce que ça comporte. Donc, pour peut-être mieux encadrer cet usage-là de compagnies tierces pour fournir des services de cette nature-là, pour justement limiter les problèmes. Puis on le voit aussi, ben là, faire le lien avec la nouvelle sur la panne dans les aéroports européens, ben, le fait d'avoir sous-traité un fournisseur majeur, celui-ci tombe, ben, tout le monde est affecté. Donc, d'un point de vue économique, d'économie mondiale ou d'économie européenne en l'occurrence, Ça a des impacts très importants. Et d'ailleurs, en Europe, avec NIS2 notamment, ça devrait venir rattacher ça. NIS2 qui tarde un peu avant d'arriver, puisque c'est une loi qui est quand même assez complexe, assez exigeante. Je trouve qu'elle est peut-être en montant en puissance un peu trop rapide par rapport à ce qu'on a, on est capable de tolérer. Et il faudrait probablement faire une courbe de montée en puissance plus progressive, celle-ci contrairement au RGPD. Qui va justement permettre une meilleure adoption. Puis une contamination mondiale, ces bonnes pratiques-là. Et justement, éviter les problèmes auxquels on vit couramment à l'heure actuelle, ces problèmes de solution. Et dernière nouvelle, celle de ce genre semi-publié reportage de Proton, en l'occurrence, qui parle de la souveraineté numérique en Europe, à quel point chacun des pays a un pourcentage de souveraineté ou du. Ben, pas en tant de souveraineté, mais d'usage de compagnies de technologies américaines. Donc, c'est intéressant de voir la dépendance de certains pays qui sont jusqu'à 97% dans certains cas des technologies américaines. L'objectif n'est pas d'arriver à un absolu de souveraineté, mais d'arriver à un niveau qui est confortable, qui nous permet de ne pas juste avoir tous nos œufs dans le même panier, donc tous les œufs dans le panier américain. Et dans un échiquier mondial qui est incertain avec des joueurs comme la Chine et l'Inde qui sont incertains aussi en termes de leur affiliation. Donc, ça devient de plus en plus difficile d'arriver dans un contexte de mondialisation des technologies comme on a vécu dans les 40 dernières années, qui a permis toute l'explosion, la progression, tout ça, ben de se replier sur soi puis donc de ralentir les innovations. Donc, on va voir comment ça va se faire, comment on peut équilibrer, maintenir une innovation rapide et agile tout en protégeant nos informations personnelles. Puis au Canada, bon, on va devoir y arriver à cette réflexion-là. C'est moins présent qu'avec les Européens parce qu'on n'a pas une histoire aussi longue que ça. Par ailleurs, au niveau de l'indépendance et de ces combats-là, on est quand même, au Québec du moins, dans une réflexion qui nous habite depuis déjà un certain temps, d'avoir vécu dans un océan anglophone et d'avoir résisté à ceci. Donc, il y a quand même un regard qui est un peu différent par rapport... par rapport à ça. Donc, je vous remercie de m'écouter. Je vous remercie. Donnez vos feedbacks. J'en ai eu quelques-uns jusqu'à présent. J'essaie d'améliorer justement pour répondre parce que c'est un format qui n'est pas comme le format d'entrevue que j'ai habituellement. Donc, celui-ci est beaucoup plus intéressant de le travailler en conjointement avec les commentaires que je vais recevoir, les suggestions, les améliorations, donc d'aller plus loin. Puis, au dernier, j'avais promis le IRC, c'est pas encore fait, j'ai pas encore remis toutes mes infrastructures sur pied. Puis, j'ai pas encore fait les refondes de back-end qui vont permettre de faire ça efficacement, mais ça s'en vient. Ça sera annoncé sur les médias sociaux qui, eux aussi, je suis en train de remettre sur pied, que je comprends quand ça aura du temps pour m'en occuper. Merci.